C'est curieux, épisode spécial, je suis avec Ingrid. Comment vas-tu?
Bonjour, écoute, ça va bien. Un peu remise de la semaine qui a été mouvementée.
Oui, absolument, je suis d'accord avec toi. J'ai dormi comme très très profondément ce matin. Ça l'a fait énormément bien, je crois que toi aussi d'ailleurs.
Oui, mais heureusement qu'il n'y a pas d'image et qu'il n'y a que le son.
Ouais, pas mal la même chose pour moi aussi. Là. J'ai l'air un peu frippé ce matin. Heure de France, d'ailleurs, le matin. On va faire un retour sur un peu sur notre expérience de CyberWeb, parce que c'est, en tout cas, pour moi, c'est une expérience qui s'améliore à chaque année. Donc, j'en tire davantage de bénéfices de ma connaissance d'écosystème européen et français. D'être en contact, puis tu es un bon guide pour moi dans cet univers-là. Puis cette année, bref, on parlait beaucoup d'AI, on a vu beaucoup de choses. Et je vais te laisser partir avec ton analogie qui est tout à fait intéressante et qui va nous faire débouler sur plein de sujets.
Bah après, je ne sais pas si c'est une inspiration du fait d'être à Rennes et pas loin de la forêt de Brocéliande et de tout ce qui est contes et légendes bretonnes, mais... ou parce que je suis une princesse en tant que femme, enfin voilà, la princesse de la cyber, j'en sais rien. Pour certains, je suis plutôt un dragon qu'une princesse. C'est tous ceux qui me disent des bêtises, ça a tendance des fois, au bout d'un moment, à me transformer en dragon, mais je pense que je suis pas la seule de ce côté-là, parce que qu'est-ce qu'on entend comme bêtise?
Ouais, je t'ai vu cracher ton feu à quelques reprises à l'European Cyber Week, là.
Bah, c'est-à-dire qu'une des thématiques était quand même beaucoup la désinformation. Donc, il y avait l'intelligence artificielle, donc c'était cybersécurité et intelligence artificielle, la coopération en fait et l'usage, l'emploi de l'IA dans le domaine de la cybersécu. Et puis, on avait aussi la thématique de la désinformation et de la manipulation. Et on m'a beaucoup parlé de la désinformation, de la manipulation, les Russes, les Chinois. Mais bordel, le marketing. C'est-à-dire, ça c'était magique, parce que la princesse, elle a découvert le monde des licornes, forcément, conte et légende. Et en fait, le problème c'est que c'est vrai que sur le stand, on voyait une licorne annoncée, et que quand on arrivait, on voyait plutôt un âne avec une corne et une robe à paillettes, parce que c'était pas très élevé sur le niveau. Par contre, il y avait des licornes qui ne savaient pas qu'elles étaient des licornes.
Aussi, ouais.
Il y avait quelques pépites quand même fort intéressantes. Et finalement, on se rend compte aujourd'hui que dans notre société, tous ceux qui sont en lien avec le monde de la recherche scientifique, finalement, c'est bien cette alliance d'entreprises et des modèles d'entreprises où je fais de la recherche fondamentale dans la tech, je découvre quelque chose, je commercialise une version et je poursuis la recherche. En fait, j'ai mon produit vache à lait qui va être, qui est le fruit déjà de la recherche. C'est bon, ça y est, c'est compris. Mais moi, maintenant, je continue à évoluer parce qu'il faut s'adapter à l'évolution de la société, des besoins, de ces nouveaux besoins qu'on crée aussi avec l'arrivée des technos. Mais en bonne intelligence humaine, dans le domaine de l'artificiel. Enfin, en tout cas, il y a eu des jolies rencontres et moi je sais que je vais poursuivre certains liens et je te tiendrai au courant de ces petites pépites et de ce qui se passe. Parce qu'elles étaient dans un rapport d'équilibre d'ailleurs. Beaucoup d'équilibre chez ces pépites et beaucoup de déséquilibre chez mes ânes.
Et puis en plus, la référence Méda dans laquelle j'ai été vraiment participant avec toi, j'ai vu les kiosques qui n'étaient pas très loin l'un de l'autre. C'est ça qui est tout à fait ironique dans la situation où justement, il y avait un chercheur qui amenait une compréhension intéressante du sujet dans lequel on a pu aller justement à parler, mais qui n'avait aucune capacité à se vendre, à permettre justement de faire émerger sa technologie ou l'état de ses recherches. Quand dans le kiosque, pas très loin, on avait une compagnie qui utilisait essentiellement de l'open source, marketée sous du AI souverain et tous ces beaux mots qui sont très, très, très à la recherche sur le territoire français notamment. Donc, de voir ça, mais que dans les faits, c'est juste d'amalgame de solutions open source et quelque peu incomplète en termes de fonctionnalité, puisque si on regarde des modèles modernes de sécurité AI, cette compagnie-là n'avait aucune maîtrise de ceux-ci, donc il avait juste été un bon intégrateur de technologie open source, à mes yeux.
Mais ce qui était très drôle, d'ailleurs, là, on en revient aussi, toujours dans le monde de la princesse. La princesse, elle a son château. Et justement, en fait, cette grosse entreprise qui va me recycler de l'open source, en fait, la problématique, c'est qu'elle est très silotée. Oui. Et en fait, elle a pris des éléments d'intérêt de ses clients. Tiens, un peu de ci, un peu de ça. Ah tiens, alors après, derrière, ça fait hashtag graph, hashtag analyse textuelle, hashtag trucmuche. Enfin, les hashtags, j'en avais beaucoup, mais à la fin, je dis, mais je paye quoi? Parce que juste. Et puis, à un moment donné, je dis, bon, très bien. Et là, en fait, regarde un utilisateur et je leur dis, alors, si je fais comme ça, puis finalement, mon château, cette entreprise qui propose de sécuriser mon château me dit, alors j'ai tout analysé, mais par des meurtrières. Ouais, ok, d'accord, super. Mais il n'y avait personne dans le donjon et j'ai pas de vision à 360. Alors en fait, entre ce qui est dans les... ça y est, j'ai oublié le terme, mais en fait, ce qui est dans les angles, ce que tu ne vois pas, en fait, comme on conduit l'angle mort. Voilà, en fait, j'ai tellement d'angles morts. Et comme le diable est dans ces petits détails, et donc là, en cybersécurité, on est bien d'accord, le diable est dans les angles morts, moi, j'avais pas mes preux chevaliers que j'attendais pour protéger mon château fort et mon précieux trésor de princesse. Et donc, j'allais me retrouver quand même très vite envahie parce que ils s'occupent pas des utilisateurs. Ils vont dire c'est de la faute de l'utilisateur. Et je leur dis, mais non, vous m'avez pas fait une information et un renseignement ni mise en garde. Donc, comment mon utilisateur va bien utiliser? Donc, malheureusement, moi, j'allais me retrouver avec mes petits habitants et mes petits villageois qui allaient baisser le pont-levis en plus. Parce qu'en fait, j'allais avoir un outil de simplification et un agrégat de technologies open source, mais qui allait tellement faciliter potentiellement de la fuite d'informations par des mauvaises utilisations et par un manque de mise en garde. Puis à côté de ça, j'avais mon pauvre chevalier errant chercheur qui ne savait pas que lui, il avait la clé pour protéger mon château. Mais l'analyse globale, la vision globale, il est obligé en tant que chercheur. Un chercheur, pour qu'il puisse produire une connaissance nouvelle, il doit déjà faire une revue de littérature. Et là, en fait, dans sa revue de littérature, il sait où on en est, mais au-delà de l'état du marché. Lui, c'est de l'état des connaissances. Donc lui, il va arriver avec sa solution disruptive. Mais il ne sait pas à quel point il est disruptif dans ce monde de dragons du marketing, hein.
Ben notamment, puis ce qui m'a un peu étonné, c'est l'absence de connexion entre ces deux univers-là, parce que c'est sûr que l'entreprise conventionnelle est nécessaire, donc amène les capitaux nécessaires à faire émerger. Mais ça a été deux solitudes. Ça m'a vraiment surpris qu'il n'y ait pas de dialogue vraiment entre les deux, que la compagnie qui fait de l'argent, dans son finance de la recherche, et la recherche vient alimenter la chose pour que ce cycle-là, vertueux, si on veut, en quelque sorte, ou que les profits ramènent dans la recherche et la recherche ramène des profits, donc de continuer. Puis ça a été pour moi complètement absent. Puis l'aberration, c'est que sur deux kiosques, un à côté de l'autre, un avec de la recherche fondamentale, essentielle, puis l'autre avec juste de la reprise d'open source pour faire de l'argent.
Et oui, et puis c'est pas le même tarif, d'ailleurs.
Non.
Il vaut mieux payer la recherche fondamentale en fait directement. Peut-être parce qu'on paye pas le marketing et donc en fait c'est pareil. Hein, dès qu'on enlève l'emballage, mais il paraît qu'avec ce qui se passe pour notre planète, il faut enlever l'emballage. Donc peut-être dans la réorganisation des systèmes et des modèles économiques de la prochaine fois. Peut-être que parce que c'est dur, hein. De nous faire passer pour une licorne, un âne avec une corne et une robe à paillettes, mais sauf que c'était... Enfin, voilà. Sinon aussi, on a eu des choses où... Alors là, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une histoire homme-femme, mais de la disproportion dans la présentation du produit en me disant, voilà, je te déballe tout ce que je peux faire et je te montre toute ma puissance. Alors... Là, le problème, c'est qu'il m'a fait peur, le pro chevalier qui se présentait. Je fais, ouh, il est un peu dangereux, lui. Qu'est-ce qui, c'est trop puissant pour moi. Ça va m'exploser entre les doigts. Et est-ce que j'ai besoin de tout ça pour mon petit château? Voilà. Et en fait, à un moment donné, c'est cette manque de compréhension d'un besoin quand quelqu'un se présente, cette incapacité à pouvoir dire, j'ai la puissance d'aller très loin, mais j'ai aussi, enfin voilà, c'est-à-dire que il faudrait qu'il me fasse une Céline Dion. T'as une puissance vocale, mais ouais. Tu sais aussi chanter une berceuse. Enfin, tu chantes pas une berceuse comme de la CDC, quoi. Enfin, je. Enfin, si pour ma nièce, si. Mais. Ma nièce, si, ça marche bien. Mais. Elle a été un peu trop au contact de.
Ouais, c'est d'autres choses, mais en même temps, puis on parlait, c'est l'allocation de ressources aussi. C'est autant dans ces éléments-là, on va mettre toujours la force maximale tout le temps. Notamment, ben là, on parlait des agents autonomes, c'est un exemple. Il y en a d'autres exemples de cette nature-là où je n'ai pas besoin d'avoir 100% tout le temps ou au maximum, mais dans certaines circonstances, certains moments. Marketing, c'est la même chose, à peu près dans tout. Je n'ai pas besoin d'être intensément surveillé ou intensément convaincu ou autre chose. On peut y aller en gradation, on peut y aller avec les bons moyens. Puis là, tu parlais justement d'aspects plus écologiques, on enlève l'emballage, c'est de l'allocation de ressources. Justement, d'un point de vue écologique, on ne peut pas allouer de façon infinie des ressources à des choses qui n'apportent pas une valeur réelle au point de vue sécurité, parce qu'on demande là-dedans. Fait que si ma sécurité n'est pas réellement augmentée, ou c'est juste une apparence, ben là, moi, je trouve que c'est un mauvais investissement des ressources ou une illusion de contrôle qu'on se donne dans ce genre de circonstances-là.
Parce que, comme le thème était la lutte aussi d'influence et tout ça, enfin, très sincèrement, je ne nie pas les stratégies de certains États en lutte d'influence, hein, parce que tous les États en font, hein, puis, enfin... Mais d'un autre côté, moi, le problème de l'influence du marketing, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je vois on se fait voler nos décisions par manque de connaissances et de compétences dans le fonctionnement de la technologie. Et ce que j'apprécie peu, c'est que sur le genre de rencontre comme l'European Cyber Week, je ne devrais pas avoir du marketing. Ce n'est pas un salon commercial. Et malheureusement, certains stands m'ont fait du commercial, alors qu'en fait, on est plutôt dans du partage de connaissances, de faire un état des lieux de la situation, tant de la menace que des réponses à la menace. Parce que quand on voyait les acteurs, d'ailleurs, certains utilisaient le marketing avec beaucoup d'humour, mais pour en créer une connaissance, oui. Donc au profit. Moi, j'ai beaucoup aimé... les messages qu'on a pu voir en fait sur certains. Alors, l'ANSSI vient dans l'humour. On a eu aussi donc notre Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. On a eu aussi. Il y avait Cybermalveillance qui était présent, qui est grosse cote en France de guichet unique pour le citoyen ou pour la petite entreprise pour trouver de l'information et pour juste tiens, il y a un truc bizarre, est-ce que c'est vraiment une menace, est-ce que, enfin voilà, pour trouver un point de contact, pour trouver une réponse à son questionnement et sans culpabiliser. Alors là, qu'est-ce que ça fait du bien, on nous dit pas que c'est de notre faute. Voilà. Et parce que c'est pas de notre faute si on nous a vendu du rêve, c'est juste que le marketeur il a été bon mais qu'il a pas compris que c'était disproportionné par rapport à mon besoin. Mais bon, ça c'est des choses. Mais il y avait aussi une association de DPO, donc de correspondants pour tout ce qui est protection des données personnelles. Et ils avaient fait des petits goodies et notamment l'entreprise avec son ransomware et là le patron qui dit faut négocier et son adjointe qui lui dit proposons d'autres DRH en échange. J'ai trouvé que c'était assez drôle parce que enfin voilà sur les négos c'est vrai que c'est souvent du côté de la RH avec les syndicats et est-ce qu'un syndicaliste c'est comme un hacker, enfin voilà, mais en tout cas Il faut
mais
pas.
C'est très bien cet élément de ramener l'humour. Un, je trouve ça rafraîchissant parce que on est pris avec des dark patterns, un peu comme tu mentionnes le côté marketing, la désinformation, c'est la même logique désinformation et marketing à certains égards. D'un point de vue massif, comme les grands GAFAM utilisent, notamment pour Facebook, qui l'utilisent, qui favorisent les nouvelles négatives, par exemple, qui sont à mon avis des dark patterns, puis il y en a plein partout, puis c'est rafraîchissant de voir enfin quelque chose qui ne fait pas appel à la peur pour nous faire comprendre des choses, nous aider à, puis en retirant la peur de notre réflexion dans ce cas-ci. J'ai plus l'impression qu'on va retenir longtemps ces informations-là, puisqu'ils vont être capables de s'inscrire dans notre esprit, au lieu de juste être sur le défensif puis refuser et repousser cette information-là. C'est un coup que je donne à tout le monde parce que je trouve qu'en sécurité, on fait trop appel à la peur.
De toute façon, c'est aussi l'humain et les effets cognitifs. Il ne faut pas oublier que la peur, le cerveau va se figer et va bloquer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai mis la personne sous stress avec de la peur, d'ailleurs dans les exercices de gestion de crise, si vous êtes trop mise sous contrainte et sous pression de vos stagiaires dès le départ, le problème, c'est qu'il n'y aura plus de raisonnement. Ils seront dans l'incapacité de raisonner et de monter une stratégie de défense, de réaction face à l'incident et à la gestion de crise, parce que la peur fige. Tout le monde voit le... Alors, quand on parle du petit lapin...
La peur, c'est 80% de notre capacité cognitive qui s'efface. Aussi brillant qu'on peut être, on perd 80% de tout ça. C'est énorme, là, 80% de notre
c'est
capacité.
C'est pire que l'alcool.
Oui. Il y a des égards. Fait que ton analogie de mec bourré pour le AI, ben...
c'est le réveil qui fait peur. Mais après, le truc, c'est que voilà, il faut éviter la peur. Et quand on arrive sur des questions en fait d'humour, l'humain aussi est humain, c'est-à-dire que pour ancrer une connaissance nouvelle, l'humour, on retient plus la bêtise et l'anecdote humoristique que voilà. Et en fait, c'est comment on suscite des émotions pour ancrer les connaissances nouvelles. Là, en fait, les émotions positives et les émotions joyeuses sont celles qui restent le plus longtemps parce que par système de protection, nos émotions négatives sont celles qu'on va rejeter et puis écarter assez rapidement. Donc là aussi, un exercice qui fait... parce qu'on fait beaucoup d'exercices de gestion de crise et tu sais que ça, c'est un truc que je dis, OK, c'est nécessaire, mais on gérerait mieux les crises si on faisait davantage de prévention et si on investissait davantage sur la prévention. Ce moment où on dit à quoi ça sert ? Le jour où tu auras ta gestion de crise, tu vas regretter de ne pas avoir payé parce que ta crise va te coûter tellement plus cher que la prévention.
Les modèles de gouvernance américains, notamment, parce que j'ai donné un cours là-dessus hier, puis j'ai eu à l'aborder. Tous les éléments préparatoires, si on prend la roue du Cyber Security Framework du NIST, les deux premiers éléments sont tous les éléments préparatoires à la crise. Donc, on met en place les choses pour avoir la visibilité, les mesures, tout ça. Et quand on arrive à la crise, qui est souvent inévitable, malheureusement, on a de la préparation et on bascule vers l'autre côté, puis on bascule vers cette capacité-là d'œuvrer et de ne pas être sous stress, donc d'agir. Ou si on est sous stress, d'avoir des moyens qui viennent limiter notre prise de décision parce qu'elle est moins bonne, elle est vraiment moins bonne, notre capacité de décision lors d'une crise.
Exactement. Donc, en fait, on est toujours sur ce rapport au proportionné, la question d'équilibre. En fait, la cybersécurité, c'est être zen. Parce que, c'est-à-dire que si on a du mal à maîtriser ses émotions, ce sera compliqué. Et pour apprendre à les maîtriser, il faut travailler sa prévention. Et là, en fait, on en revient toujours aux bases, au socle, et puis à ces solutions gratuites, connues de tous, et il faut juste arrêter la stratégie de l'autruche, éviter la stratégie des licornes, mais pas la bonne, c'est-à-dire qu'on va éviter de prendre un bourricot pour une licorne. Après, sincèrement, moi je sais pas comment ça se passe chez vous, mais ce que je regrette, c'est que dans la formation de mes ingénieurs, parce que l'intention n'est pas d'être un âne au départ. Le problème, c'est que dans leur formation initiale, ils manquent de culture de l'humain, des sciences humaines et sociales. Ce qui fait que derrière, eux, ils vont aller me chercher le produit le plus puissant du monde parce que eux, ils vont, c'est normal, c'est humain, ils vont vouloir pousser la réflexion dans les capacités de la technologie. Sauf qu'à un moment donné, il y a un utilisateur et il y a un cadre d'emploi, il y a un environnement pour l'emploi du produit qu'on va acheter. Et qu'à la fin, on dit, bah, tu sais, c'est bien gentil, mais je ne vais pas utiliser ça dans un grand immeuble sur le territoire national. Je vais utiliser ça sur mon chantier alors où je n'aurai pas de 4G. Parce que je suis... Oui, en France, ils se moquent, Nicolas Loïc, parce qu'on n'a pas... forcément, on capte pas forcément très bien partout. On a encore non, des...
Je vais nuancer, je me moque pas. C'est que de façon, quand le Canada était plus en retard sur ces choses-là, on avait une couverture à la limite médiocre et ces aspects technologiques-là n'étaient pas là. On avait l'image de la France qui était largement en avance parce que les
téléphones... C'est le marketing.
Ouais, ça a l'air que... Ouais, je me suis fait attraper au marketing à quel point la couverture cellulaire en France était exceptionnelle. On avait des vitesses de transfert exceptionnelles et tout est meilleur, tout est mieux, tout est ça. Puis nous, au Canada, on avait de la misère à avoir de la couverture, du moins vraiment qu'on sortait des villes, chose qui s'est énormément améliorée depuis à bien des égards, mais j'étais étonné de voir qu'ici, ben, je me rappelle l'an dernier, quoi de Kidan, 0-0 cellulaire, mon seul en marchant, que ce n'est pas en Bretagne. Là, j'ai comme...
Ah ouais, mais non, ouais. Mais alors, en Bretagne, on ne se fait pas hacker, d'où c'est le brouillard. Il n'y a pas de réseau, mais c'est le brouillard. Mais ça, c'est un coup de Merlin. C'est toujours dans nos contes et légendes bretonnes. Il y a Merlin, de temps en temps, quand il veut te dire, tu sais, tu as un droit à la déconnexion. Tu as le... C'est pour que tu gardes ton zen. C'est pour toi. C'est que pour que tu puisses réfléchir par toi-même, entraîner ton intelligence humaine sans la techno, parce qu'histoire que tu ne deviennes pas trop con non plus, le but, ce n'est pas que tu deviennes un mouton. Non, non, mais c'est tout bien pensé, hein. c'est pas gratuit.
Ça vous prépare à un cas sinistre où les taux cellulaires tombent, où toute la société civile est en problème. Donc, s'il y a des élections, une catastrophe, vous êtes prêt parce que vous êtes habitué à travailler sans 4G dans des zones moins urbaines.
D'ailleurs, en situation de crise et de catastrophe naturelle ou de grosses tempêtes, parce que l'air de rien, tu es quand même à la pointe de l'Europe.
Oui.
L'air de rien. Non, mais c'est le marketing.
Et l'air de rien, il y a eu de la neige.
Oui, bah ça, c'est à cause de vous, là. Vous étiez trop nombreux, les Canadiens. Vous nous avez...
On n'en a même pas la maison de la neige. En tout cas, au moment où on enregistre, il n'y en a même pas de la neige. Ça a été le... What? Fait que j'ai eu le droit, ma première neige de cette année, je l'ai eue à Rennes. Avec les gros flocons, tu sais, c'est magnifique, mais je l'ai eu à Rennes.
Oui, bah, tu en reparleras à notre collègue breton qui était en kilt tout comme toi. Hein?
Oui,
ah
oui.
Qui a vachement apprécié la préparation de la venue de la neige.
Ouais, lui, c'est ça, moi, je vis dans le froid, donc je m'habille en conséquence, clairement, pas lui.
Ah mais il n'a pas protégé son précieux.
Non, il était petit, son précieux. Il avait un très petit précieux cette soirée-là.
Voilà, t'en viens au problème de proportion et d'équilibre. Voilà, la mesure n'était pas proportionnée à la météo.
C'est la différence entre le puriste et le pragmatique. Il a été puriste, donc il est allé au complet. Moi, j'étais un pragmatique, sachant que... Fait que j'étais pas puriste dans le fait de m'habiller avec le kilt.
mais en tout cas, non, mais c'était bien sympathique, cette coopération pour les soirées France-Canada.
Oui. Oui, c'est un élément que je mentionne. Puis pour moi, c'est une. Si je m'en trouve ça en entrée de jeu, c'est ma meilleure connaissance du marché français me permet de meilleures interactions utiles, autant pour mes interlocuteurs que pour moi aussi. Là. Puis ça augmente mon l'état de l'art pour moi augmente de cet échange de connaissances-là. Avec des personnes très diversifiées, même s'ils sont en kilt et ils ont froid, ont quand même un partage de connaissances intéressant et à savoir que j'ai fait un bon choix de pas porter de façon puriste mon kit.
Et puis pour moi, quand vous venez, vous êtes aussi une bouffée d'oxygène parce que l'approche globale on l'entend beaucoup plus chez vous, parce que justement, en fait, vous, de dire que vous faites des analyses de systèmes socio-techniques quand vous parlez de la technologie, parce que le côté de l'humain, de la particularité de l'humain, c'est des choses que vous avez intégrées dans votre réflexion, mais pas en tant que en me dire non mais attends, l'humain il est faible, donc en fait je vais mettre une IA pour le remplacer parce qu'il est trop faible et puis qu'il sert à rien. Enfin, toi t'es un humain, toi le concepteur de l'IA, donc t'es bien gentil, donc quelle est l'IA qui va te remplacer? Donc des raisonnements assez court-termistes, mais là on en est encore sur la différence entre la licorne et le bourricot.
Oui, notamment, puis ça, de toute façon, pour ceux qui le savent, je t'ai promis quand même des images de licornes qui vont te faire énormément rire. Mais oui, on a un aspect comme ça, puis on l'a quand même, j'avais eu, on me l'a cité il n'y a pas longtemps, des anomalies quand même sur notre territoire, de le firewall humain, puis toutes ces notions-là de vouloir transformer et de pas outiller l'humain ou l'aider à grandir. On est toujours dans une conception technique de résoudre le problème de l'humain, mais l'humain, déjà là, n'est pas un problème, parce que les technologies sont faites pour servir l'humain et pas l'inverse. Donc déjà là, d'évacuer l'humain de la réflexion, c'est un peu ce que tu mentionnes, puis d'avoir visité des écoles d'ingénierie en 2021, j'avais ce constat-là qui était, sont très dans des silos techniques qui empêchent la réflexion plus globale et qui met les choses aux bons endroits. En tout cas, à mes yeux, là.
Moi, la clé, ce serait qu'on arrive à obtenir dans notre enseignement supérieur, mais parce qu'on essaye de mettre une acculturation dès les petites écoles. Donc, faut voir avec les futures générations ce que ça va donner. De cette culture du numérique dès les premières classes. Mais là, aujourd'hui, j'ai quand même des personnes qui arrivent en emploi. Donc, au niveau des entreprises, donc chez mes prestataires, tant d'un côté utilisateurs qui viennent plutôt d'une culture sciences humaines et sociales et comprennent rien aux sciences de l'ingénieur, donc ils comprennent rien au fonctionnement des technologies. Donc, derrière, comme les marketeurs ne leur expliquent pas comment fonctionne la technologie, mais ils leur disent
Les marketeurs ne connaissent pas plus la technologie de façon générale. Ce sont là, ils font juste répéter leur.
Oui, en fait, on ne sait pas qui sont les moutons, mais en fait, ils me font une fabrique à moutons que je trouve assez détestable parce que ce n'est pas ma philosophie. Et puis, de l'autre côté, j'ai mes sciences de l'ingénieur qui, veulent aller toujours à toujours plus. Oui, mais je n'ai pas besoin du plus. Et en plus, ce n'est pas adapté à moi. Et en fait, après, pareil, donc je commence à parler d'ergonomie. Et alors là, c'est le drame, parce qu'ils viennent me dire que le petit bouton à l'écran qui était bleu marine, il va passer kaki, et là, c'est de l'ergonomie pour eux. Je me dis, c'est du graphisme, c'est de la customisation, c'est bien gentil, mais c'est pas ce que je t'ai demandé quand je parlais d'ergonomie. C'est-à-dire que je te demande d'intégrer, en fait, de pas me créer un sur-risque à l'utilisation, dans mon activité. Mmh. À un moment donné, si le médecin il met trop de temps pour accéder à une information et qu'en plus ça l'agace, c'est pas bon pour le patient, quoi.
Mais c'est bon pour personne. Puis de toute façon, moi, mon approche à l'ergonomie, au UX ou peu importe comment on veut le nommer, c'est faut pas que j'ai besoin de réfléchir pour utiliser un système et à la meilleure utilisation du dit système. Moi, j'ai l'exemple sur les routes parce que je déteste les routes au Québec. En général, sont à la plupart du temps mal organisées. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a pensé à la conduite naturelle, comment les gens vont naturellement conduire leur véhicule. Ils ont fait des anomalies de changement parce que, de point de vue ingénierie, ça faisait du sens, mais de point de vue personne qui est sur la route, ça n'a fait aucun sens. Des fois, il y a des déviations qui, pour moi, sont complètement absurdes. Et ça me choque à chaque fois parce que je dois réfléchir pour respecter les règles qui sont non naturelles dans le contexte, qui ne sont pas sur comment on devrait faire. Donc, ça, c'est des choses qui sont pourtant élémentaires, mais c'est d'abord des ingénieurs qui ont réfléchi à des systèmes qui fonctionnent pas. Donc, c'est dans ce genre de choses.
D'ailleurs, en reverse engineering de l'incident, des fois, c'est des choses où tu dis « Ouah, tu sais qui a conçu le truc !» Tu peux reconstituer, mais parce qu'en fait, des fois, j'amuse mes collègues parce que moi, une des premières questions que je pose, c'est qui est l'équipe projet? Et quand je vois qui est autour de la table, je leur dis, OK, bah alors, il va y avoir des vulnérabilités là, là, là et là. Pourquoi ? Bah parce que, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des facteurs de risque que vous n'avez pas intégrés dans la réflexion. Donc, bah pourquoi ? Bah parce que, en fait, là, on est dans un environnement de travail très particulier et ça aura des effets sur la techno. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, la remontée d'informations, elle est prévue par tel type de capteur, mais j'ai des variations de température. Donc, la garantie de bon fonctionnement de mon composant électronique, ou bien des fois, c'est aussi de dire « Attends, mais ton matériel connecté, c'est vachement bien, mais par contre, il va falloir chauffer le garage. T'as prévu de chauffer le garage ? Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas de trop grosses variations de température si je veux me garantir le bon fonctionnement et qu'il ne merde pas l'utilisation. » Alors, on me dit « Ah ouais, bah, j'y avais pas pensé. » Je fais « Ouais, mais attends, là aussi, quand on pense l'analyse de risque, on ne prend pas tout le cycle de vie du produit. Et en matière d'IA, non seulement on ne prend pas tout le cycle de vie de l'IA, puis alors ça a été confirmé à l'European Cyber Week, et on ne prend pas tout le cycle de vie des données qui vont rentrer dans la conception et dans le fonctionnement de l'IA. Et là, on me dit, non, mais tu, Ingrid, tu mets trop de complexité et si on veut faire une certification, il faut enlever de la complexité, sinon j'ai pas un bon résultat statistique pour pouvoir certifier. C'est peut-être ton modèle de certification qui est pas bon, en fait, juste.
Mais c'est de la réflexion, c'est de la réflexion système.
D'un seul coup, c'est le raisonnement du risque qui est pas bon. Alors là, je viens juste de te faire une analyse juridique. C'est l'analyse de la juriste, tu vois, parce que le juriste, il fait de l'analyse systémique et globale permanente, en fait. Et donc, moi, j'ai levé avec mon œil de juriste, d'où là, d'un seul coup, on me dit que je suis un dragon, mais non, je suis une princesse. Il faut qu'ils arrêtent. Hein. Et en fait, non, je leur dis, c'est là, mais comme en fait, ils me font venir qu'à la fin. Bah, c'est, j'ai eu, mais bah, by design, du con, c'est quoi que t'as pas compris? Enfin, voilà, c'est-à-dire que la princesse, elle peut se transformer en dragon quand elle voit que des ânes battaient, qui se sont vendus comme des licornes. Parce que moi, on me dit, ah non, mais moi, je suis expert, donc moi, je sais. Enfin, t'es un sachant qui sait mal. Faut retourner en cours. Va au cours de Nicolas Loïc, qui va t'expliquer ce que c'est que l'analyse globale.
Ben, notamment, puis je regarde, moi, avec les étudiants que j'accompagne, dans les premiers cours que je leur donne, puis c'est un élément essentiel qui est très clairement manquant dans la phase que je vois en cyber, c'est la réflexion en système. Parce que tout est en réflexion système. Ce que tu mentionnes, c'est la réflexion système. Oui. Tu réfléchis dans l'entièreté de ce que c'est, comment le système fonctionne et où il va briser et où on doit intervenir pour ne pas qu'il brise. Et faire que l'humain ne vienne pas briser le système. Si l'humain vient briser ton système n'est pas bien fait. Si l'humain ne comprend pas le système n'est pas bien fait. Le système ne fonctionne pas. Fait qu'on, on va inclure de la ergonomie, comme tu mentionnais. On va inclure du droit, on va inclure de la cyber, on va inclure tous les éléments, justement, parce que tous les éléments dans le système, et malheureusement, les systèmes sont complexes. Ça prend un peu de réflexion, ça prend un peu d'effort, mais il faut les réfléchir, ces choses-là. Fait que pour moi, les étudiants, c'est un des premiers cours que je leur donne. En introduction, c'est cet élément-là parce que tout est comme ça. Quand on commence à comprendre, là, les choses deviennent claires. Puis là, on comprend pourquoi les choses sont faites dans des systèmes simples, comme un simple thermostat dans une maison qui vient la chauffer. Bien, il y a des effets de bord à celui-ci. À quelle vitesse il réagit? S'il réagit trop vite, ça a des effets. S'il n'arrive pas assez vite, ça a d'autres effets. Qu'est-ce que ça a comme sur la température de la maison? Qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi l'objectif? Et toutes les différentes déviations qu'il y a par rapport à ça. Mais c'est essentiel. Et j'ai été surpris parce que la première année que j'ai donné le cours, tu sais, je parlais de ces affaires-là comme étant naturelles et étant acquis à ce niveau d'études-là. Et non, ce n'était pas acquis. Fait que là, j'étais un peu surpris. Mais là, après ça, j'ai inclus le contexte parce que je trouve ça essentiel, cette maîtrise-là. Mais de ce...
Alors là aussi, c'est encore un problème d'enseignement, je trouve, parce que ça se retrouve à plusieurs endroits, hein. C'est on silote. Parce que là, c'est pareil. Dans l'équipe de Drift, au tout départ, moi, je me suis entourée d'experts, chacun expert dans leur domaine, et puis c'était bien content et tout. Et la première réunion autour de la table, je leur ai dit, je vous rappelle qu'on est sur un projet transdisciplinaire. Alors eux, ils ont compris pluridisciplinaire. Je dis, non, transdisciplinaire.
J'aime bien la nuance, c'est important la nuance des mots.
Bah oui, oui, justement. Et en fait, d'ailleurs, on a fait un podcast ensemble sur cette émission, enfin une émission avec Drift sur le sens des mots et déjà de trouver notre vocabulaire commun parce que suivant notre domaine d'expertise, un mot n'a pas le même sens. Bah, justement, nous, au départ, ça a été ça. Puis ça a été justement aussi de comprendre de la répercussion de mon domaine d'expertise sur le domaine des autres. Ouais. Et de dire, maintenant, on construit ensemble. Ah bah de tout poser sur la table, de construire ensemble, ça voulait dire aussi acculturer au domaine des uns et des autres tout le monde, parce que sinon on n'allait pas se comprendre. Aujourd'hui, j'ai une équipe de chercheurs qui, parce que Drift termine l'an prochain, on en est à 3 ans. Aujourd'hui, ils rigolent parce qu'ils me disent, tu sais, au début, on te l'a pas dit, hein, mais au début, on a vécu ça comme un viol intellectuel de devoir faire de la plasticité cérébrale dans notre réflexion de recherche. C'est-à-dire que je ne devais plus pousser plus loin mon domaine d'expertise, je devais mettre mon domaine d'expertise au service du collectif pour une connaissance nouvelle dans le domaine de la cyber. Mmh. On a des résultats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit « vous êtes originaux ». Alors nous, on va te dire « on est plein de bon sens ». Mais bon, c'est être original, ok. Mais n'empêche que c'est-à-dire qu'on a réussi à... Alors, bon, des fois, ça peut être un peu frustrant pour un chercheur de dire, mais je fais, ouais, mais sauf que regarde, quand tu présentes, c'est tellement évident. Et regarde, les gens, naturellement, ils réclament. Les gens, nous, tous ceux qui ont pu tester, qui ont pu participer aux travaux, en demandent plus. Et nous, maintenant, c'est nous qui disons, attendez, là, à un moment donné, le problème du travail du chercheur, c'est que maintenant, il faut qu'il analyse les résultats parce que vous avez déjà vu les effets, parce que vous avez été le terrain d'expérimentation. Mais nous, on doit tout préparer pour la publication scientifique pour faire avancer tout le monde, toute la communauté. Donc, attendez.
Mais c'est un très beau parce que tu m'as permis d'être mis en contact avec ton équipe de recherche. Puis c'est fantastique, mais puis en même temps, ça me fascine. Puis, tu sais, quand tu m'en parlais, je pense que c'est l'année passée ou l'autre, c'est cette espèce de difficulté-là que les gens interdisciplinent de se parler et d'être capable de se mettre dans les souliers de l'autre, donc de comprendre que le mot utilisé par l'autre n'a pas la même signification pour soi. Un, j'ai le même problème dans un même domaine entre deux entités, deux sociétés différentes. On n'a pas les mêmes vocabulaires. Je parle d'entendre mes sociétés, je ne parle pas le Québec et la France. Je parle deux entreprises ou deux organisations vont avoir dans le même domaine, vont avoir des vocabulaires différents qui ne sont pas compatibles et c'est très difficile de communiquer. Puis c'est moi, ma plus grande déception des contacts avec autres, qu'on n'est pas capable, la plupart des gens ne sont pas capables de se mettre puis de dire, OK, on ne parle pas de la même chose et d'admettre rapidement puis de vouloir, et avec une volonté de vouloir convenir d'un terrain commun qui nous permet de communiquer efficacement.
Ah tu parles des admins et des devs?
Notamment, on peut parler de ça, on peut parler de... C'est rempli d'exemples comme ça de gens qui parlent et qui ne font même pas l'effort de comprendre le vocabulaire de l'autre et de comprendre que le vocabulaire de l'autre n'est pas le même que le sien.
Mais tu as rencontré notre chef, notre coordinateur, notre Merlin l'Enchanteur. Et en fait, il est... Enfin, c'est quelqu'un qui sait en fait comprendre le chercheur avec ses difficultés, son environnement, les contraintes de l'enseignement supérieur, de la recherche, qui sait comprendre l'humain. Mais il n'en oublie pas le résultat. Et donc, en fait, c'est un très bon meneur d'hommes. Et j'avoue qu'il a la confiance de tout le monde et il sait doser. Il a ce rapport au proportionné. Il a ce rapport à l'équilibre et au global. Et en plus, il a une curiosité, c'est-à-dire que même en tant que coordinateur d'un programme scientifique, eh ben si un doctorant lui dit est-ce que vous pourriez relire j'aimerais, eh ben il relit, il fait ses petites corrections et puis c'est vrai que le bénéfice de son expérience est une vraie plus-value pour l'équipe et il participe aussi à cette ambiance. Cette bonne ambiance au sein de l'équipe, parce que des fois, d'être la directrice scientifique, tu passes pour la méchante. Mais lui.
Voyons, là, tu craches ton feu.
Ouais, mais sauf qu'il va venir appuyer, parce qu'il va rappeler qu'il y a des délais à tenir, qu'à un moment donné, c'est bien gentil, mais non, oui, écoute, tu viens d'avoir une idée nouvelle, mais on n'a plus le temps. Puis c'est surtout hors du cadre.
C'est les contraintes amènent l'innovation. S'il n'y a pas de contraintes, on fait juste errer dans un champ libre et on avance. Les innovations, c'est vraiment les contraintes. C'est comme dans l'art. Pas de contraintes, il n'y a pas d'art. Pas de contraintes, il n'y a pas d'innovation.
Là, tu vas plaire à notre partenaire, l'INSIAM d'Aix-en-Provence, qui fait partie de Drift, parce que justement, la contrainte, une opportunité d'innovation. C'est pour ça que la contrainte en cybersécu, quand on parle de la contrainte, je dis non, mais des fois, c'est parce que déjà, il y a disproportion de la mesure parce qu'on m'a fait une surspécification. Hashtag marketing tout pourri, sans s'adapter, sans comprendre l'environnement, sans comprendre les utilisateurs. Et je te le redis toujours, et ça, c'est mon leitmotiv, c'est l'utilisateur final, lui, il est dans l'erreur humaine. La faute, elle est organisationnelle parce que l'utilisateur final, il fait avec les moyens qu'on lui a donnés et avec la formation qu'il a eue. Donc, si maintenant, vous n'êtes pas content de ce qu'il a fait, bah, vous regardez d'abord et vous balayez devant votre porte. Et combien de fois aussi, j'ai des concepteurs qui me vendent du rêve en me disant « c'est de la faute de l'utilisateur ». Alors, parce qu'il y en a qui rebondissent, ils me disent « oh, c'est l'utilisateur ». J'ai dit « non, c'est pas l'utilisateur ». Alors après, il me dit « bon, c'est vous qui l'avez formé mal ». Oui, enfin, c'est toi qui m'as mal expliqué ton produit aussi, à un moment donné.
Je suis tellement désaccord avec ce genre de choses-là, de dire, de repousser ça. Moi, si je suis pas capable, si j'ai besoin de formation pour utiliser le produit, on a un problème. Si, à moins que ce soit vraiment quelque chose de très spécifique, en usage normal et régulier, je ne devrais pas avoir besoin de formation pour faire des choses. C'est pour ça que j'ai énormément discuté avec ces notions-là. C'est parce que on ne réfléchit pas que l'utilisateur est présent. Donc, on se fout de son existence. Et clairement, plus je vieillis, plus je deviens bougon par rapport à ce genre, je deviens grognon par rapport à ces éléments-là. Quand je commence à achaler du non-intuitif des choses qui se passent, que les choses sont contre l'intuition. Et l'intuition au sens global de la société, là, je parle pas moi individuellement, mais globalement, puis je regarde partout, il y a tellement de choses dans ma vie courante qui sont non-intuitives. Et pas, je parle pas juste de moi, parce que les gens vont pouvoir rire qu'effectivement, je suis pas nécessairement intuitif partout. Vrai, mais je regarde de façon plus globale et la plupart des gens tombent dans les mêmes panneaux, dans les mêmes pièges, dans les mêmes erreurs parce que le système est littéralement mal fait.
Non, mais tu as des intuitions parce que tu as un Cro-Magnon exercé.
Ouais, ben oui.
Tu as réveillé tes capteurs parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que l'intuition, c'est il y a peu de parts d'inné. C'est quand même lié à l'apprentissage et aux expériences. Mais regarde, on en parlait.
J'ai été flabbergasté quand tu m'as dit que l'intuition c'était appris. Là, j'ai comme quand c'est ça il y a deux ans, je pense que tu m'as, j'ai fait comme on peut entraîner notre intuition. Là, j'ai comme été bien complètement, renversé. Ça m'a renversé, mais j'ai adoré ça parce que depuis que je sais qu'on est capable d'entraîner l'intuition, ben je mets beaucoup d'énergie pour entraîner mon intuition.
Qu'est-ce que de l'intuition, là encore? Mais bon, après, c'est pour ça que Drift travaille sur ces mécanismes, en fait, pour faire de l'humain le maillon fort. Justement, on va essayer de susciter, de créer de l'intuition là où aujourd'hui, il n'y en a pas du tout. C'est-à-dire que pour le moment, là, on est un peu mouton et on subit la situation. Et nous, on veut donner des petites clés pour ne plus subir. Et donc, on a déjà des petites choses. Il y a des premiers résultats qui sont prometteurs, mais pas encore publiés, donc j'en parle pas. Mais il y a des choses. Et c'est ça qui est enthousiasmant aussi, c'est qu'on peut adapter les comportements et justement susciter de l'intuition. Mais parce que simplement, les personnes ont pris conscience des choses. Et travailler sur et pour prendre conscience, faut pas avoir peur. Donc toutes les stratégies de la peur pour enseigner la cyber, échec. Ça c'est juste pour surfacturer. On est encore, c'est le côté disproportion. Alors qu'en fait, moi d'ailleurs, j'utilise maintenant dans mon vocabulaire, j'ai plus les mesures adaptées. Je dis les mesures proportionnées parce que quand je parle de proportion, ça montre aussi. Parce qu'il y a toujours une image de la cybersécurité, comme quoi c'est des contraintes, j'ai des stratégies de contournement de la contrainte. Mais si j'ai un côté de proportion, la question de la proportion déjà, ça veut dire, ça induit en fait. C'est que dans l'information induite, c'est que potentiellement, ce n'est pas quelque chose de disproportionné, puisque c'est proportionné, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas trop, il y aura ce que nécessaire.
C'est un concept légal, par exemple, la proportionnalité en ce sens-là, parce que si on a une réponse disproportionnée, notamment, on va parler de le self-defense, si la réponse est disproportionnée, tu on peut plus plaider l'autodéfense parce que elle est disproportionnée. Fait que la proportion est importante parce que de ce côté-là, si on est agressé, on doit faire une réaction conséquente à la proportionnée à l'agression qu'on a reçue pour se défendre. Si on devient disproportionné, on dépasse le cadre normal, donc on n'est plus protégé par les règles d'autodéfense.
Oui, mais là, tu fais allusion à une analyse juridique d'une situation, puisque tu es sur la légitime défense. Et donc là, l'analyse juridique, c'est une analyse systémique par nature qui est complètement globale et qui tient compte de tellement d'éléments, l'environnement, les facteurs organisationnels et humains et les facteurs techniques. En fait, le juriste peut faire de la SECNUM.
Oui, puis il doit. Si, puis,
mais puis, alors, puis, il doit.
Il y a un lien avec l'intelligence artificielle.
Le juriste traitant, parce que alors, malheureusement, je ne veux pas être désagréable avec certains de mes collègues qui vont faire. Je distingue d'ailleurs les juristes qui font les analyses de texte où ils vont chercher l'intention du législateur. Parce que ces juristes qui font des analyses de texte ou des commentaires d'arrêt, pourquoi aussi le juge? Pourquoi le juge a décidé tel qu'il a décidé? Ces juristes-là sont nécessaires parce qu'ils vont aider le juriste qui traite des dossiers, qui gère des dossiers, pas en tant qu'avocat, hein, le juriste d'entreprise, celui qui va accompagner l'entreprise du numérique à trouver sa solution. Parce que ça va donner des compréhensions quand on analyse une décision d'un juge sur comment le juge va prendre sa décision de justice. Donc nous, derrière, on dit, si je veux montrer ma bonne foi, sur quoi je dois me baser, comment je montre patte blanche. Donc, ce travail est très nécessaire. Le travail sur l'analyse des textes va nous aider à mieux comprendre ce qu'a voulu le législateur. Qu'est-ce qu'il voulait nous induire? Quel type de comportement? Donc, c'est nécessaire. Mais pitié, venez pas dire aux traitants comment mettre en œuvre parce que vous n'avez rien compris de l'analyse du juge. L'analyse du législateur n'est pas l'analyse du juriste qui accompagne une entreprise parce que lui, il doit jongler sur tout ce périmètre et il doit l'intégrer parce que lui, la situation, elle est évolutive en fonction de quelle étape d'un projet numérique je suis. Et quel est l'acteur ? C'est que là, je suis en multi-acteur en permanence. Ce n'est pas l'analyse du juge et ce n'est pas l'analyse du législateur que le juriste il doit faire. Il doit se mettre dans la peau de chaque partie prenante pour limiter le risque juridique. Et donc là, quand l'objectif est de faire un produit numérique, c'est mon produit déjà doit limiter la SECNUM, mais moi derrière, le risque numérique, et il doit aussi limiter le risque juridique pour tous les acteurs. Et bien là, dans le genre, plein de personnalités à gérer. Après, c'est pour ça que moi, on me dit que je suis prévisible. Tout dépend quel rôle j'ai et quelle casquette j'ai aujourd'hui. Hein. Je suis chercheur, je suis traitante, je fais quoi? Ça, c'est tout le drame de ma vie. C'est que même moi, je peux arriver à me perdre, hein, mais en tout cas...
L'écriture de la doctrine ou de l'interprétation, ça a des limites. Puis dans le fond, puis pour l'exposition que j'en ai eue de ces éléments-là, on va faire de l'interprétation des journaux de débat qui ont mené à l'interprétation de l'intention du législateur dans des contextes très spécifiques où on remet en question, le texte de loi. Et ça, c'est dans des cas très particuliers qu'on va intervenir comme ça, parce qu'on a des cas plus épineux. Mais dans le quotidien, c'est plutôt rare qu'on va aller jusqu'à aller voir le journal des débats pour comprendre l'intention du législateur si celle-ci ne transcende pas le texte, qui parfois, dans certains textes, ne transcende pas facilement le texte, étant donné que les lois ont été écrites à des moments peut-être un peu plus stressants. On parlait de stress et d'incidents. Donc, dans ces cas-là, si le législateur est stressé, effectivement, il peut y arriver des situations que c'est plus complexe de comprendre son intention réelle. Mais oui, effectivement, dans ce genre de choses-là. Je reviens sur la proportionnalité parce que c'est là au niveau de l'intelligence artificielle, c'est d'autant plus important parce que ça devient difficile de qualifier la proportionnalité des réponses et de l'utilisation du AI par rapport à ce genre de choses-là. Et c'est pour ça que le volet légal est intéressant parce que la réponse, puis on parle beaucoup, là, il y a beaucoup au moment qu'on enregistre de débats sur les armes automatiques, notamment avec du AI ou l'appui des militaires avec du AI. Et là, on embarque dans des zones de proportionnalité très importantes et très complexes. Et j'ai pas l'impression qu'on a un début de réponse ou un début de choses par rapport à ça, parce que ça devient complexe, parce que le AI n'est pas capable de comprendre la notion de proportionnalité à ce stade-ci.
Bah, c'est-à-dire que c'est bien là aussi où la question de l'autonomie, elle est aussi liée à la culture du pays. Parce que quand tu veux aborder les enjeux militaires, là, il faut voir la vision stratégique du chef militaire. C'est-à-dire, quel est l'art militaire, l'art de la guerre par le pays concerné. Parce que quand tu regardes la stratégie militaire de la Chine, de la Russie, de l'Ukraine, de la France, de l'Allemagne, des États-Unis, du Canada, finalement, il y a autant de stratégies que d'États. Et en même temps, il y a aussi la personnalité du chef militaire qui va mettre un petit peu sa patte et tout. Et donc, finalement, quand on a conscience de l'impact de l'usage qui va être fait sur la manière de concevoir la technologie, c'est des choses où naturellement on va dire le système qui est fait pour tel pays ne va pas correspondre à tel autre pays. Bon, après, on enlève de plus la problématique du paramétrage et de l'entraînement des données avec l'histoire des ontologies. De toute façon, je te l'ai dit que les ontologies, ça allait me... Moi, voilà, c'est une très belle découverte dans le monde de l'intelligence artificielle parce que pour moi, c'est la base. Mais pour un produit qui doit être multiculturel, celui qui me dit « j'ai fait qu'une ontologie en anglais », je dis « bah super », mais déjà à la base, la structuration du langage et de la réflexion de ton utilisateur, c'est pas la même. Donc, il va y avoir un bug dans la coopération humaine de ta techno, parce que ça veut dire que tu vas devoir à un moment donné tenir compte de cela si tu veux une relation optimale, quel que soit le pays, à la base. Si ça existait, il n'y aurait plus de conflits, mon gars. Il n'y aurait plus de guerre dans le monde. Ouais. Donc, en fait, c'est utopiste de penser que c'est possible. Et il n'y a qu'à voir nos villes connectées. Les villes sont pour moi vraiment le reflet des usages de chaque culture, de comment on voit la techno dans chaque culture. Parce que la ville connectée chinoise, elle est qu'en Chine.
Ouais. Oui, puis ça, c'est important. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup voyager aussi, parce que ça me met en contact avec toutes ces diversités-là, notamment technologiques, notamment urbaines, parce que la façon de voir, la façon des transports, tout est différent. Tout transcende la constitution de la société à ce moment-là sur la base de la culture. Et les gens sont souvent étonnés à quel point les différences peuvent être énormes. Puis je le répète souvent, la culture entre le Québec et la France est énorme. Le clivage est énorme, même si on parle la même langue. La culture, on n'est pas dans la même état de culture. Les Québécois, on n'est plus habitués. Les Français, quand ils arrivent au Québec, sont un peu étonnés à quel point la culture n'est pas la même. Et le premier contact, quand ils ne sont pas bien préparés, est généralement désastreux. J'en ai connu beaucoup de Français qui ont eu un rejet du Québec parce que ils s'attendaient à autre chose, soit une vision très idéalisée, ou en tout cas, à la limite, c'est comme une France, mais paisible. Mais non, le Québec n'est pas une France paisible. Le Québec est autre chose. C'est même à la limite, comme on dit dans un très vieux film québécois, on est des des Nord-Américains qui parlons français. C'est ça qu'on
dit? Ben oui, mais là encore, ça veut dire aussi que le français, il ne faut pas qu'il arrive en conquérant et en « je suis maître du monde », tu vois. Mais bon, là, on a un chef d'État qui ne va pas nous aider sur ce côté-là. Mais après, c'est aussi ce côté d'accepter de s'ouvrir et de recevoir la différence de l'autre et d'interagir. Parce que si on dit « non, mais écoute, ta différence, elle est trop différente, passe ta route, on ne va pas s'entendre », parce que ça, c'est tout à fait possible, même entre nationaux, hein. C'est ce que j'appelle la gestion du con. Donc, je suis ton con, donc tu me fous la paix, t'es mon con, donc je te...
Ouais, ça va, là. Bon, ça, c'est qu'en faux.
Mais après, pour moi, le côté culture, mais... encore plus avec les IA génératives, c'est encore beaucoup plus fort parce que il va y avoir que des prompts de merde et des réponses de merde et puis des résultats qui vont pas être hyper satisfaisants ou des hallucinations Enfin, après, je ne vais pas reprocher aux IA d'avoir des hallucinations, parce que je peux t'assurer que des fois, moi-même, j'en ai sur certains sujets.
C'est le fondement même de notre esprit. Fait qu'on a de la difficulté, c'est l'incapacité à faire la distinction. Est-ce qu'on entraîne la machine à être un humain, puis ensuite, on est étonné que la machine fasse comme les humains, puis invente des choses. Fait que là, c'est là, maintenant, il faut peut-être arrêter de...
C'était très drôle. L'autre jour, on parlait d'IA. Avec un industriel et tout. Quand il me dit, je fais de l'aide à la décision, je fais très bien. De l'aide à la décision stratégique ou de l'aide à la décision opérationnelle? Alors, il me dit, c'est-à-dire? Ah! Je fais, ah, ok, d'accord. Donc, vous voyez pas la nature dans la différence de la décision. Et donc, il me dit, non, mais si c'est stratégique dans la prise de décision, il y a des enjeux à prendre qui vont induire la décision humaine qui va être prise. Mais si vous n'en avez pas conscience déjà, vous, au départ, je suis mal barrée pour que le produit me plaise. Et donc, parce que je fais les conséquences, parce que les facteurs d'une décision opérationnelle et les facteurs pour la prise de décision d'une décision stratégique ne sont pas les mêmes, parce que les enjeux juridiques déjà ne sont pas les mêmes et les questions de responsabilité ne sont pas les mêmes. Donc, je fais, mais déjà là, tu viens de me créer un risque juridique sérieux. Et là, la personne, déjà de ça, elle n'en a pas conscience. Alors après, elle va me dire, c'est à toi de me modéliser ton processus décisionnel. Allez, vas-y. Mais quand est-ce que tu m'as expliqué qu'il y avait une nuance entre une décision stratégique et une décision opérationnelle pour que je puisse, moi, insister sur les bons éléments pour que tu puisses me faire un travail propre, puisque déjà, naturellement, tu n'as pas cette information, ce qui est déjà pour moi... que tu n'es pas si expert que ça. Donc, on va aller à une expérience confirmée et pas experte. Ce n'est pas la même tarification. Parce que dans ce coup, il y a besoin de plus de contributions de ton client. Je vais devoir t'éduquer. Exactement. Et en fait, à un moment donné, quand on commence à me dire et tout, puis je fais, attendez, là, il y a une disproportion dans la relation. C'est-à-dire que vous êtes le professionnel du numérique. Moi, je suis le client. Donc, là, si moi je dois travailler autant pour avoir votre produit, là c'est que vous êtes junior, parce que je dois vous guider, je dois vous tenir la main. Et en fait, la modélisation, c'est moi qui l'a fait. C'est pas parce que toi tu me l'as traduit en langage informatique, c'est que t'es en train. Et donc là, le gars, je commence à lui dire, eh bien, tu viens de modéliser mon savoir-faire, il est à moi, il est protégé, et donc tu peux plus vendre sans mon accord. Ah bah oui. C'est pas parce que tu me l'as modélisé en langage informatique et que 30... Voilà, c'est que c'est mon savoir-faire. Il y a un truc qui s'appelle la propriété intellectuelle, monsieur. Mm-hmm. Et là, ils disent que je suis un dragon. Mais non, je suis une princesse.
Ouais, mais c'est parce que...
Tu es vendu licorne, mais tu es un âne avec une corne et une robe avec paillettes, quoi. Sauf que moi, je suis pas aveugle. Je ne suis pas...
Notamment, mais c'est ton rôle de juriste dans ces éléments-là. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup les éléments de croisement des compétences, parce qu'on est obligé d'œuvrer dans ça. Puis j'aime ça, cette démonstration. J'ai un cas récent où on m'a livré une analyse, ou en tout cas une analyse de sécurité. Puis je reçois ça, puis je regarde le document, puis je le retourne, je dis, moi, je ne peux rien faire avec ça. Ça me donne, il n'y a pas de piste de décision, il n'y a rien, tu fais juste m'énoncer des exigences. Oui, mais c'est bien, mais toi, ton travail de spécialiste, c'est de prendre ces exigences-là, les mettre en adéquation avec la demande qu'on a faite, parce que la demande émane de mon côté. On a fait une demande, tu me réponds les exigences. Ben non, tu me réponds, tu me donnes une solution ou quelque chose que tu ne veux pas analyser à ta place. Ça m'énerve.
Tu vois, là aussi, pour en revenir aux problématiques du marketing, c'est qu'à un moment donné, je devais conseiller quelqu'un qui me dit, bon, allez, vas-y, tu viens. Et donc, il y avait des investisseurs. Donc, il y avait des clients, des investisseurs et plusieurs entreprises devant nous. Et moi, on me dit, je veux que tu fasses partie du comité d'évaluation. Très bien, pas de souci, j'arrive. Et donc là, j'ai une entreprise qui me présente là aussi quelque chose. Ah, il y avait beaucoup. Alors, d'ailleurs, je leur ai dit cash. Enfin, nous, on était là pour évaluer. On n'était pas sur un salon. C'était un... Voilà. Je leur dis, non, mais on enlève les éléments marketing. On parle vrai. Là, vous n'avez que des traitants qui doivent prendre qui doivent conseiller des décideurs, là. Donc, allons-y, parlons vrai. Répondez aux questions. Là, je découvre que, OK, vous avez numérisé mon papier. il y a rien. Il y a rien dans votre outil. C'est une coquille, en fait. C'est une enveloppe. Et là, ils me disent, oui, c'est à vous d'intégrer vos autres SI dans les cases vides que vous avez créées. OK. Donc, en fait, à part me créer un environnement avec des cases vides qu'il faut que je remplisse pour qu'après j'ai un résultat. Donc, je fais OK. Donc, en fait, vous me demandez à moi de remplir vos coquilles vides. Super. Et là, il y a un investisseur qui était là et puis il dit, c'est quoi cette boîte? Ben là, c'est pour vous montrer que ça prend pas plus de place que ça. Oui, alors, l'impact environnemental, c'est pas ça. Mais bon, c'est bah, OK, d'accord. Donc, OK, ça tient. Alors, par contre, sur un plan d'ergonomie dans la pièce et de la place que ça prend sur un serveur, bah, en fait, là, voyez, on peut être en parfaite autonomie. Vous pouvez nous emmener un peu partout. Ouais, en même temps, je voyage pas beaucoup. Donc, bon, si tu veux. Puis, j'avais pas trop envie de mettre mon serveur dans ma valise avec les problèmes SNCF que tu connais.
Oui.
Voilà. Donc, là, je leur dis, OK, d'accord. Et puis là, en fait, l'investisseur qui dit, ouais, et en fait, j'ai bien compris, donc là, il faut que la coquille, elle est vide, il faut que je la remplisse. Et je frotte sur la boîte, il y a le génie qui sort et qui me remplit la coquille. J'étais morte de rire, parce que là, en fait, l'investisseur, il venait de les condamner. Il leur a dit, bon, écoutez, pour le moment... Donc, il a été gentil, il a été poli. Il leur a dit, bon, bah, pour le moment, bon, bah, il y a une intention, c'est bien, bah, continue à travailler. Parce que là, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il dit, je ne sais pas sur quoi investir. Et quand ils disent on prépare une levée de fonds, bah continue à préparer, mais surtout montre un produit. Là, tu montres rien. Tu m'as montré des paillettes, tu m'as montré une intention de créer une intelligence artificielle et des capacités à, mais ce que tu me proposes, ah bah j'ai pas besoin de lire 15 fois un document, il suffit j'aurais besoin de lire qu'une fois parce que je vais avoir une aide à la lecture. Ouais, mais ça, à terme, ça va me rendre technico-dépendant et ça va faire de moi un mouton.
Notamment.
Donc, ça ne m'intéresse pas, moi, en soi, sur le côté de la coopération humain-machine, humain-IA. On en parle de cette savoir-faire sans, gagner du temps avec, savoir-faire sans. Mais je connais mon humain, si à force, c'est trop bien. Enfin, c'est-à-dire que quel type d'outil, quel type d'usage?
Ouais, ça, c'est l'effet de barre, puis ça, c'est l'autre côté. Puis avec le AI, notamment, on l'aborde peu, malheureusement, sur le fait que les gens vont devenir paresseux.
Ouais.
Puis ça devient dangereux. Puis quand tu parlais de techno-dépendance, c'est un peu dans cette perspective-là. Puis c'est l'oubli que le cerveau humain est constitué pour être le plus paresseux possible. Parce qu'on est vraiment biologiquement constitué comme ça, dépenser le moins de ressources possible pour avoir le meilleur résultat possible. Ça, c'est
l'optimisation. Pour ça que j'aime bien mes formations pour les feignants.
Notamment. Mais ben, on est conçu comme ça. Biologiquement, c'est comme ça. On veut réduire le maximum l'énergie pour avoir le meilleur rendement. C'est biologiquement, on est vraiment programmé comme ça. Donc, dès lors, le cerveau, dès qu'on lui donne la capacité de ne pas fonctionner, il va ne pas fonctionner. Donc, si on commence à mettre ce genre de système-là en place, justement pour alléger l'aspect cognitif humain, correct, ça me va. Mais dans la mesure où ça ne vient pas rendre l'humain paresseux, mais de façon dangereuse. L'exemple qui typique normalement, c'est en médecine ou en imagerie médicale où les radiologues vont être remplacés essentiellement par du AI ou vont être aidés, on va dire, aidés par du AI. Le problème, c'est que le radiologue va arrêter de faire son vrai travail, de contrôler la machine. Il va juste présumer que la machine a tout le temps raison. Donc, il ne joue pas son rôle de double contrôle sur la machine, puis donc de présumer que la machine a tout le temps raison. Ce qui avec du AI, c'est complètement faux, on n'a pas d'hallucination. Ben, c'est ça que c'est. Ça a des limites, il faut connaître ces limites-là. Donc, on met un humain dans le processus pour intercepter des éléments comme ça. Mais l'humain est paresseux, donc l'humain, puis on le voit avec le AI depuis que ChatGPT est sorti, à quel point les humains sont paresseux. Et donc, tu sors du contenu, donc de la cochonnerie essentiellement. Dans le milieu du travail, j'ai eu des gens qui m'ont livré des documents écrits par du AI qui n'ont pas relu avant de déposer. Oui, ben là, c'est là, ça devient l'absurde. Ils n'ont pas relu et c'était bourré de problèmes techniques qu'on nomme d'analyse dans le texte parce que le AI n'analyse pas. Donc, c'était facile de détecter. J'ai retourné assez brutalement dans un des cas. Je veux dire, faites votre travail, c'est de la merde. Je peux rien faire avec le document. Vous n'avez pas
ça,
lu.
J'aurais
pu l'utiliser moi-même, le AI, pour le même résultat. C'est pas ça que je veux. Je paye un humain pour avoir plus. je vais aller plus loin. Fait que là, faut arrêter là, de faire ça. Mais
tu as des entreprises qui le font et qui te le vendent en prestation. Et quand après, derrière, tu leur dis ouais, mais en fait, parce que moi, ça m'est arrivé et je leur ai dit et on parle du plagiat là parce que j'ai pu vous retrouver tous les. En fait, je peux vous citer les sites que vous avez sur lesquels vous avez trouvé l'information.
Ben oui.
Donc, je dis ça, c'est quand même, parce que vous les avez pas cités, c'est un peu dégueulasse quand même, parce qu'ils sont pas cités. Parce que normalement, une source, elle se cite quand on reprend des éléments d'autres personnes. Et en plus, il y avait des incohérences et des redondances, parce que justement, il n'y a pas de raisonnement dans les IA génératives. Et on nous dit, ouais, non, mais en fait, parce qu'il y en a qui vont utiliser ce type-là d'outils, mais avec leur documentation interne et les ressources internes qu'ils ont validées comme étant des ressources fiables. Donc, ils vont me dire, c'est pas du tout Internet, donc ça reste quelque chose de fiable. J'ai, ouais, très bien. Mais le problème, c'est que tu sources pas et que même si c'est une ressource fiable, parce que oui, j'ai identifié que c'était issu du site de l'Agence du numérique en santé. Ça, j'ai identifié que c'était le tel site et tout. Je fais, mais sauf que comme je suis un acteur de cet écosystème, dis-toi bien que je l'ai lu avant. Que donc, quand on me sort une synthèse à ce prix-là, en me disant que c'est son travail personnel, bah, je deviens dragon, j'avoue. Parce que, en fait, je fais un montant de. Combien vous me demandez? Je fais OK, le rapport, il faisait bien 100 pages, mais vous l'avez fait en 5 minutes.
Ouais,
et je dis après, vous pouvez être fiers de vous, hein, y a pas de problème. Mais je fais, mais moi, ça, c'est ce qu'un étudiant aurait pu me faire.
Ben oui.
Très sincèrement. Donc, quelle est la plus-value? Dans ce cas, je prends un stagiaire, ça me coûte tellement moins cher. Et en plus, il m'en fera plusieurs rapports de 100 pages avec votre méthodo.
Oui, mais à la limite, ça revient, je vais payer moi-même le AI. Et tant qu'à ça, je veux me le payer, puis je ne paierai pas un prix de fou pour une analyse inexistante. Quand je paye un humain, c'est parce que je veux une analyse. Justement, je vais aller plus loin, je veux être ébloui. Parce que le AI, sinon, ça va faire le boulot. C'est suffisant. Bon,
apparemment, là, il y a aussi des chercheurs qui jouent dans la communauté scientifique. Il y en a aussi qui utilisent ces procédés. Et c'est bien regrettable parce qu'à un moment donné, moi, je suis un piou-piou dans le monde de la recherche. Mais sur des sujets autant sociétaux que ceux que nous abordons ensemble et que tu abordes dans le cadre de Polysécure, en fait, pour moi, il ne faut pas laisser les machines et les outils définir les connaissances qu'on doit avoir.
Ben non.
C'est bien, à un moment donné, on parle d'une évolution sociétale. C'est bien aux humains de décider quelle société ils veulent et comment on analyse l'information. C'est bien une histoire d'humain parce qu'on parle de notre société. Et ce n'est pas les machines qui doivent nous dire comment faire.
Non, puis ça, je suis entièrement d'accord. Puis il y a deux aspects à ça, parce que ce matin, je lisais un blog d'une annonce de faite par une compagnie, et le blog était clairement écrit par une machine. Puis il y a des stigmates qu'on repère maintenant, parce que c'est stérile. Il y a comme quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis ça, je ramène l'analogie, puis ça, c'est un doute, une très bonne connaissance qui fait de la musique, notamment, mais qui travaille aussi en cyber. Que les gens vont reconnaître quand je fais le lien entre les deux, me disait, parce qu'il lui fait déjà dans la musique électronique, il dit à une époque, le but c'était d'aller chercher dans la pureté du son. Donc, ils ont énormément mis d'efforts dans la pureté de la sonorité, et ainsi de suite, au niveau de la musique électronique. Et à un moment donné, ils ont abandonné parce que les gens n'aiment pas ça tant la pureté, la perfection. Ils ont commencé à injecter des erreurs.
Ben ouais, regarde, on aime bien Garou.
Ouais, mais dans la musique électronique, c'est plus difficile de faire ça. Mais bref, on réinjectait des éléments de déviation dans les systèmes, justement parce que la perfection est pas et devient achalante avec le temps.
Mais j'aime bien Garou, hein. Tout va bien.
Oui, non, mais.
Justement, cette voix un peu éraillée qui a fait son succès. C'est bien qu'elle n'était pas aussi pure que celle de Céline Dion, et il a quand même fait un succès.
Ben oui.
C'est parce que l'humain, il aime bien aussi tout ce qui n'est pas si parfait que ça.
Ben oui, c'est dans, en ce sens. Donc, le volet très synthétique de l'écriture du AI est un problème, mais dans certains systèmes, c'est important d'avoir cette perfection-là. Mais là, on parle plus d'algorithmique que d'AI, mais ça encore, ça, c'est une question de sémantique. Là. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec les mêmes choses. Il y avait une présentation sur du Wargame qui parlait de AI comme ça se faisait dans les années 50. Ben non, c'est de l'algorithmie. Tant qu'à ça, c'est du AI ou du machine learning, c'est de l'algorithmie automatique. C'est-à-dire qu'on a construit une algorithmie complexe, mais ça demeure de l'algorithmie quand même dans l'absolu. Et du AI, quand c'est programmé correctement, puis ça, c'est des choses que les gens connaissent peu, va toujours donner le même résultat. La même question va toujours donner le même résultat. C'est la façon de base que ça fonctionne. Le réel, c'est qu'on ne fait pas ça, c'est qu'on met du aléatoire dedans, justement parce qu'on n'aime pas ça quand c'est parfait. Mais on rajoute du aléatoire dans les modèles plus grand public. Et de ceux-ci, à chaque, même si on met deux fois la même requête, on obtient deux réponses différentes. Qui est la façon, parce que les gens n'aiment pas le chose, mais ça l'injecte de l'hallucination, ça l'injecte des problèmes, ça l'injecte un panoplie de choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, on est encore qu'un jouet surpuissant dans lequel on ne maîtrise pas. Ça fait 1h10 qu'on parle. Je pense qu'on va arrêter là. On a touché à énormément de sujets. Il y a d'autres sujets qu'on va aborder, notamment parce que des publications d'articles qui s'en viennent, qui vont être très intéressants. On a abordé des sujets qui ne sont pas reliés directement à l'European Cyber Week, qui sont également très intéressants, notamment la souveraineté numérique, la collaboration, notamment d'autres éléments comme ça qu'on va revenir dans d'autres podcasts parce qu'on a tellement, tellement de sujets.
Faut garder notre esprit critique et que quand on agace les princesses, elles peuvent devenir des dragons.
C'est dangereux, une princesse.
Et que justement, il faut garder son esprit critique pour ne pas croire que tout le monde est une licorne, parce qu'il y a quand même un sacré lot d'âne battée dans l'histoire.
Énormément, énormément. Merci.
Merci.